There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emilie Michele-Storena, qui est consultante merchandising. Bonjour Emilie.
Bonjour, merci de me recevoir.
Donc on est ravi de t'avoir, on va parler de concept magasin, de merchandising, parce que c'est vraiment ton domaine, qui est un domaine que tous les auditeurs ne connaissent pas, mais pourtant au cœur de leur vie, hein, puisque tout le monde va faire ses courses et essaye d'acheter ses meubles et tutti quanti. Tout d'abord, Emilie, est-ce que tu peux nous parler de grandes lignes de ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai un parcours plutôt atypique. Moi, mon cursus initial, c'est un cursus de design. Avec un petit crochet par la phase enseignement, puisque j'étais enseignante pendant quelques années.
Ah oui, t'enseignais quoi comme
matière ?
Ouais,
j'étais enseignante en design.
C'était ta vocation ? Exactement. Tu voulais faire ça au départ dans ta vie ?
Alors, c'était une vocation parce que moi, j'ai toujours été très sensible au sujet de pédagogie et d'accompagnement de la montée en compétences. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et à la fois, à la fin de mes études en design, j'avais une volonté aussi de rentrer assez rapidement dans la vie active. Moi, je viens d'un milieu plutôt très modeste. Donc, il y avait aussi ce besoin pour moi financier de trouver un job aussi stable à la sortie de mes études. Alors, l'enseignement, c'était pas ce qui me correspondait. Donc, assez rapidement, en fait, j'ai découvert le métier de merchandiser. Donc, ça a été vraiment sur un hasard total, en fait. Moi, j'avais une vraie envie de retourner vers un métier créatif. Donc, je cherchais à rejoindre des agences plutôt dans les métiers de la décoration. Un peu par hasard, en fait, je suis tombée sur une annonce d'une entreprise qui s'appelait Zodio à l'époque, qui recherchait et qui s'appelle toujours Zodio d'ailleurs, qui cherchait des personnes pour accompagner en fait leur développement. Donc c'était une enseigne toute jeune qui était en train de se développer, de construire en fait de nouveaux points de vente. Donc ça a été pour moi mon premier pied dans le métier du merchandising.
Ils faisaient quoi comme produit, les audios? Ils étaient dans quoi?
Alors ils sont toujours dans l'univers de la maison avec un vrai angle personnalisation de l'habitat, c'est-à-dire que tu vas avoir des produits aussi bien d'art de la table, culinaire, du textile maison, mais aussi beaucoup de produits de customisation, de loisirs créatifs, et avec aussi des ateliers in-house avec des professeurs qui animent ces ateliers-là. C'était un vrai concept innovant à l'époque. Et pour moi, ça a été une vraie découverte, c'est-à-dire que quand je les ai rejoints en fait pour leur ouverture de leur deuxième magasin sur la périphérie de Melun, moi je suis rentrée dans un entrepôt et j'en suis ressortie avec un magasin monté, prêt à recevoir des clients.
D'accord. Ah oui, donc tu as participé à toute la mise en place, quoi.
Exactement. Et en fait, en ce sens, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai retrouvé à la fois ce côté créatif vers lequel j'avais vraiment envie de retourner et aussi ce côté extrêmement pragmatique de la recherche de performance, du pilotage du chiffre d'affaires, avec en plus un bonus, un vrai sujet de compréhension de la psychologie du consommateur. et voilà, d'empathie finalement. Mmh. Et voilà, c'est, je me suis vraiment retrouvée dans cette diversité en tout cas. Et cette,
ça t'a beaucoup plu quoi.
Voilà.
Combien d'années t'as fait chez Audio?
Alors là, chez Audio, je les ai accompagnés juste 6 mois pour leur montage de magasin. Et à partir de là, ça a été mon point de départ dans le merchandising, donc terrain, où j'ai passé à peu près 7 ans sur différentes enseignes, sur des fonctions terrain, 6-7 ans, où voilà, j'ai travaillé sur différents types de produits, sur de la grande distribution pour Auchan, sur de la distribution spécialisée pour Alinéa. J'ai travaillé aussi pour du textile, donc j'ai accompagné notamment l'enseigne Tommy Hilfiger, sur différentes typologies de points de vente aussi, de l'outlet. J'ai travaillé également sur leur concept store, enfin sur leur flagship, pardon, des Champs-Élysées. Donc voilà, ah, une grande richesse.
T'as une vraie diversité avant d'arriver donc à Maison du Monde, qui a été une grosse expérience aussi, puisque t'es resté plusieurs années chez eux. Donc Maison du Monde, qui est, on le sait, une marque qui est assez iconique hein, dans l'univers quand même du mobilier et de l'art de la maison, hein, on va l'appeler comme ça, qui est une marque, je trouve moi, intéressante parce qu'elle est à la fois premium, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Ouais. C'est une marque qui, je pense, marche quand même assez fort. Hein.
Ouais, alors... Juste avant d'arriver à cette étape Maison du Monde, je fais une petite parenthèse. Mais donc moi j'ai en parallèle, en étant toujours merchandiser sur le terrain, repris des études en marketing parce que pour postuler à des postes siège, en tout cas moi je sentais qu'il y avait un besoin de se renforcer sur tout le background, on va dire purement commercial, et puis la compréhension des attentes consommateurs. Donc ça, j'ai en cours du soir repris mes études en parallèle de...
Bien, c'est courageux de faire ça un peu en deuxième volet, pas tout de suite dans un premier parcours, mais renforcer...
Mais indispensable, à mon sens.
Tu en ressentais le besoin, en tout cas.
Exactement. Et donc, ça m'a permis, effectivement, il y a à peu près 6 ans d'être contactée par Maison du Monde pour les rejoindre, effectivement, en tant que responsable merchandising amont et aval, donc une marque très, très inspirante. Comme tu disais... très riche parce que à la fois une belle diversité de produits sur le monde de la maison. C'est assez rare d'avoir des enseignes qui fassent à la fois du meuble et du produit de petite décoration.
C'est vrai. Pratique. Voilà. C'est beau, être assez pratique pour les clients, hein, les acheteurs.
Exactement.
Qui ont besoin pour leur appart ou leur maison.
Exactement.
Il y a combien de points de vente Maison du Monde en France?
Alors, on est sur un peu plus de 360 magasins qui sont répartis sur toute l'Europe, donc dans 8 pays différents.
Ok, sur un marché, alors on va pas faire toute l'étude de marché des magasins de Maison du Monde, mais je sais que t'es de l'art de la table ou de l'art de la maison, mais on est sur un marché, tu dirais, où il y a des habitats, enfin on connaît un peu tout un type d'enseignes françaises.
Ouais.
Bon après il y a ceux qui viennent du Nord aussi, qui sont assez costauds, mais qui sont un autre positionnement.
Mmh.
Je les mentionnerai pas, comme ça ce podcast ne va pas devenir une collection de marques. Mais toi, qu'est-ce qui se joue finalement sur ce marché? Bah il y a un pouvoir d'achat qui se réduit un petit peu des consommateurs.
Ouais.
Il y a quand même un nombre limité d'enseignes. Donc c'est quoi? C'est cette premiumisation, c'est la qualité des produits, il y a l'e-commerce, il y a tout ça aussi. Donc
exactement.
Comment tu t'as vu finalement enfin pour toi, qu'est-ce qui se joue sur ce marché?
Pour moi, alors sur ce marché, un des gros enjeux et des grosses forces Maison du Monde, ça a été l'omnicanalité de son modèle.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est une enseigne qui s'est construite au départ sur des points de vente physiques,
ouais.
Mais très rapidement qui, grâce au côté visionnaire des fondateurs de l'enseigne, s'est positionné sur le e-commerce assez rapidement par rapport à ses concurrents.
Mmh.
Et un développement aussi assez rapide sur toute l'Europe.
Ah, intéressant. Oui.
Ouais.
C'est vrai que c'est quand même c'est assez unique, peut-être pour une structure purement française, je dirais.
Exactement, et assez unique aussi parce que c'est une enseigne, comme je disais tout à l'heure, qui revendique une vraie identité et qui, en tout cas, se positionne vraiment sur un angle inspirationnel. Et ça, clairement, c'est assez différenciant.
D'accord.
On
le sent dans leur design, dans le logo, dans l'ambiance. Ils ont créé quand même un truc assez cosy.
Exactement.
Je trouve dans les points de vente. En tant que client, on ressent quand il y a quand même un peu une ambiance dans tel ou tel type de magasin, je trouve.
Mais en tant que professionnel du coup du merchandising, très complexe de gérer, comme tu dis, ce côté cosy. Donc ça fait partie de l'ADN de l'entreprise d'avoir ce côté cosy et cette envie de ressembler à des boutiques. Mmh. Et pourtant, c'est une entreprise qui s'est développée sur des magasins de 300 mètres carrés comme des 3000 mètres carrés. Donc, comment tu arrives tant que...
Garder le cosy sur 3000 mètres carrés, c'est plus difficile.
À continuer à être au rendez-vous sur des surfaces qui sont plus proches de la concurrence.
Très intéressant. Je trouve ce podcast, c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que je trouve que c'est un sujet que j'ai pas trop abordé, mais qui, je trouve, est dans l'air du temps, qui est recréer vraiment une expérience client en point de vente. Bon, on le sait, le pouvoir d'achat, quand même, il a pris cher, c'est le cas de le dire. Les gens réduisent beaucoup les consommations, et c'est vrai que du coup, l'expérience devient de plus en plus importante, et ça va être les marques qui vont être les plus malines sur leurs produits, leurs services, la fidélisation. Ouais. On a reçu hier le directeur de la redoute de la digitalisation, donc ça fait un bon point avec ce que tu as dit, la Redoute, c'est vrai que c'était une marque un peu iconique, elle a plus de 150 ans, et effectivement, son passage au digital a été assez fort, un peu comme Maison du Monde, et donc c'est intéressant. Alors, en deux mots, toi, finalement, ce que tu as appris le plus, tu dirais, dans l'expérience Maison du Monde, qu'est-ce qui t'a finalement le plus marqué là-dedans? Bon, c'est dur de résumer, plusieurs années,
années très très denses. Moi, ce que je retiendrais, c'est vraiment que quand j'ai rejoint l'entreprise, c'était une entreprise qui avait grandi très très rapidement, qui était dans une phase vraiment charnière de sa transformation, qui venait tout juste de passer en bourse, on avait un fonctionnement interne qui était très proche de la PME. D'accord. Avec une échelle des volumes de vente, une croissance qui était ceux d'une multinationale. Et en fait, l'enjeu,
c'est drôle,
c'est l'enjeu pour moi, et ça a été
ça peut être un bon côté PME. Il y a le moins et le plus.
Exactement.
Le moins, c'est le côté peut-être plus artisanal et homemade, et
qui peut être un plus aussi d'ailleurs.
qui peut permettre de garder de l'humain, parce qu'on le sait avec les collaborateurs actuellement. Et et après le moins, c'est sans doute peut-être l'efficacité, les process et le passage à l'échelle, j'imagine.
Tout à fait. Ça, donc effectivement, moi j'avais une équipe qui était extrêmement engagée, qui était qui vivait l'inspiration, mais aussi effectivement ce sujet de processisation, amener des outils, donc ce que une des grosses réalisations que j'ai pu mener à bien chez Maison du Monde, ça a été par exemple le passage à la data pour les suivis de chiffre d'affaires. Une rationalisation aussi de mes équipes de merchandisers itinérants, puisque j'étais en gestion d'une équipe de merchandisers amont, donc les personnes qui conçoivent les préconisations qui sont communiquées au magasin, et aussi en gestion d'une équipe qui se déplaçait en magasin et qui les accompagnait finalement, les collaborateurs, sur la mise en place. Et donc... Sur cette partie-là, il y avait un gros besoin de rationaliser les périmètres, de gagner en efficience aussi la façon dont l'accompagnement pouvait être fait en magasin, avec aussi un besoin de normaliser les standards merchandising. Donc, j'ai accompagné aussi...
Ça va jusqu'à la vente? Ça va jusqu'au lien aux conseillers de vente et aux gens qui sont sur place, ou quand même pas le merch?
Alors... D'une certaine façon, ça peut aller jusqu'à la vente, c'est-à-dire que le merchandising, nous, on avait une fonction aussi de communication interne. Donc, on envoyait des directives au magasin et aussi tout ce qui pouvait avoir attrait à des informations un peu plus générales sur le produit au magasin. Donc, en ça, si tu veux, on accompagnait les conseillers en leur apportant un peu de pédagogie aussi autour du produit, autour de l'univers que les équipes créatives avaient prévu de retranscrire dans leur thème. Enfin, en soi, mon équipe n'était pas en charge de la vente, c'est vraiment...
C'est l'équipe sale. Alors, ça fait pont vers la deuxième partie du podcast, parce que c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, parce que moi, j'aime bien faire un petit peu de pédagogie dans le podcast. Ça fait les gens, ils apprennent un peu des choses, parce que c'est des mots qu'on entend, mais on connaît pas vraiment totalement les définitions. Donc, je vais faire un peu le candide là, mais si on prend le terme de merchandising, comment tu le définis à ton niveau, finalement? Quelle est un peu ta définition, toi, du merchandising?
Alors moi, si je devais vraiment vulgariser, mon métier, en fait, c'est de de proposer en fait des directives, de concevoir des règles de mise en avant de produits en magasin, de façon à ce que on soit sur un magasin le plus esthétique possible, mais aussi le plus performant possible. Donc ça, c'est ma définition.
C'est intéressant, il y a du produit, il y a de l'esthétique, il y a de la perf, donc il y a aussi de l'expérience indirectement.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est vraiment si on reste sur le volet merchandising. Maintenant, quand on va plus sur le sujet du concept magasin, c'est véritablement un sujet d'expérience client, c'est-à-dire le concept magasin, c'est comment en fait on fait en sorte que le client conçu par la marque, eh bien, rentre en relation avec celle-ci, alors via du produit, mais pas que, via une ambiance, via un univers, et qu'on prenne vraiment son identité, ses valeurs, son ADN. Mmh.
Ça me fait marrant, le merchandising, ça me fait penser à l'UX design dans le monde du web.
Exactement,
et ouais. Il y a un bon parallèle, parce que l'UX design, c'est ce travail entre le produit, l'expérience utilisateur, l'expérience, l'ergonomie. Je trouve que ça a des similitudes avec ce que tu es en train de dire.
Ouais, tout à fait. C'est le pendant web du merchandising, finalement. Alors, bien que le pendant web du merchandising, c'est aussi le e-merch, donc le category management web. Mais effectivement, il y a cette démarche aussi de design thinking, c'est-à-dire cette démarche où on questionne aussi, on questionne beaucoup le client.
Voilà. Les tests utilisateurs. Donc, toi, tu remontes ça parce que ça te va permettre d'améliorer l'expérience dedans sur le terrain, ce qui est beaucoup la définition de l'UX design.
Oui, et on est sur vraiment des enjeux à la fois quantitatifs, parce que l'enjeu, c'est quand même de faire en sorte que le point de vente soit rentable et performant, mais aussi des enjeux qualitatifs pour vraiment faire en sorte à la fois de fidéliser.
Il y a des enjeux d'image et de notoriété. Et alors, donc ça, super, tu m'as très bien répondu. Et alors, la partie plus pratique, je dirais, est-ce que c'est ça que je me demandais? Enfin, tout le monde se pose pas la question, mais c'est vrai que bon, les magasins, tu l'as défini, ils sont à un moment habillés créativement, il y a ce travail un peu en amont, mais ça, c'est des gens qui restent permanents ensuite, ou c'est un travail un peu plus saisonnier ou ponctuel, comme un peu dans le cinéma où on va faire un tournage et il y a un peu des deux, ça dépend de la stabilité du économique de l'enseigne, j'imagine.
Ça dépend de la stratégie aussi de l'entreprise, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui vont prendre le parti finalement d'avoir un merchandising très centralisé, donc d'avoir des books, des préconisations qui soient conçues par le siège et redescendues par dans les magasins, et finalement les équipes ont pour fonction
D'exécuter un peu plus, quoi.
Voilà, d'exécuter la vision amont. Dans ce type de cas, sur des marques qui vont un peu moins gérer les spécificités locales et qui vont attendre aussi des vendeurs beaucoup de polyvalence. Et puis tu vas avoir des marques qui vont être plutôt tout en ayant quand même des choses,
des guidelines
conçues en amont, qui vont être aussi plus
customisées en local.
Voilà. D'accord. L'autonomie en fait des équipes locales. Alors ça, c'est beaucoup plus chronophage, parce qu'il faut vraiment avoir des équipes qui ont été formées et qui, selon la taille de la surface de vente aussi, soient plus ou moins dédiées, et un temps de travail dédié à cette mission-là.
Et donc aujourd'hui, donc ton métier, j'imagine, est à la fois à la strate pour un petit peu infuser ça dans les enseignes, parce que maintenant donc tu as ton compte, et donc tu vas t'adresser aux enseignes de distribution pour proposer des recos, et après tu peux aller jusqu'à l'implémentation, c'est ça, pour peut-être mettre en place et tout ça. Ça recoupe un peu ton scope, tu dirais?
Alors oui, effectivement, on en a pas parlé, mais aujourd'hui je suis depuis quelques mois en indépendante sur mon activité de merch et de concept magasin. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à l'implémentation, mais je vais être sur, des missions très amont d'audit de points de vente, d'audit qualitatif, quantitatif, sur des missions de conception, de préconisation. Donc là, actuellement, moi, j'ai un client dans l'univers de l'épicerie fine que j'accompagne sur des conceptions de préconisation pour l'accompagner dans son développement en franchise. Et je peux être aussi sur des missions de concept magasin. Donc, là, on est plus sur de la conception de points de vente, mais aussi sur de la stratégie, par exemple, d'assortiment. C'est-à-dire que, par exemple, un magasin qui fait 350 mètres carrés ne proposera pas la même sélection de produits qu'un magasin de 80 mètres carrés, par exemple. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir donner, voir en termes de produits aux clients pour qu'ils captent bien l'identité de la marque.
Alors, si on prend justement les grandes tendances actuellement sur le retail, qui est le domaine que tu connais bien avec tout ce travail de merchandising, je sais qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur, donc on va en parler. Donc, il y a l'impact environnemental qui est très important. Il y a comment le digital aujourd'hui, tu l'as dit, il devient omniprésent, omnicanal et comment on cumule ça avec du physique. Il y a le sujet de l'IA qui est en train d'arriver, je crois, sur des référencements produits, tu vas pouvoir aussi en parler. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu un petit topo des tendances pour toi fortes auxquelles tu crois et qui un peu bousculent le métier ou réinventent le métier?
Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une phase charnière du métier de la conception des points de vente et du merchandising. C'est-à-dire que si on grossit un peu le trait, jusqu'à présent, quand un client allait en magasin, il venait là pour acheter un produit qui était neuf et il repartait avec.
Tu connais la stat d'ailleurs que j'ai donnée hier. Quand tu vas en magasin, tu as entre 30 et 50% de chances d'acheter.
Ouais.
Et quand tu es en e-commerce, c'est plutôt dans les 5%. Donc, il y a quand même un taux de rebond. Donc, ça, c'est intéressant pour l'importance du physique.
Exactement.
Où les gens quand même continuent à acheter de manière plus facile que quand on va sur un site où il y a des gens qui abandonnent et tout ça. Donc ça, c'est faut l'avoir en tête quand même.
Exactement. Et là, c'est aussi toute la différenciation du point de vente. Pendant assez longtemps, au sortir du Covid notamment, on disait les clients ont été habitués à acheter sur des sites. Pourquoi ils reviendraient en magasin? Et finalement, on a constaté que les clients sont revenus massivement en magasin parce que effectivement, il y a cette sensorialité, ce besoin d'expérience. Produit et de l'ambiance aussi magasin, ce besoin de reconnecter aussi avec l'humain.
De relax aussi, parce que dans les villes, les gens, le week-end, c'est quand même le moment où il faut s'occuper.
Ouais.
Les centres commerciaux restent quand même une expérience
de divertissement.
Et puis universelle de tout temps. Je pense que dans quelques dizaines d'années, il y aura quand même encore des centres commerciaux. Peut-être ça, ils vont se moderniser. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça reste aussi des lieux de vie, finalement. C'est ça, le truc.
Exactement. Et je pense que, aujourd'hui, on est vraiment sur une période charnière, notamment d'un point de vue vraiment produit. C'est-à-dire que, on le voit, il y a un développement vraiment exponentiel de la vente en occasion, en seconde main.
Ah oui, le fameux second hand.
Exactement.
Ça a boosté, tu dirais, depuis combien d'années? Finalement, depuis l'après-Covid ou même avant, ça avait attaqué
Après, les performances du Bon Coin étaient déjà très bonnes avant le Covid, mais on va dire que ça fait à peu près 2 ans que là, c'est vraiment un indispensable. Voilà.
Oui, avec toutes les enseignes aussi qui cartonnent sur ce créneau.
Exactement, et du coup, une réappropriation des retailers assez récente, mais indispensable. Et donc voilà, je pense que jusqu'à présent, on concevait le produit comme étant un produit neuf. Et du coup, dans la conception du point de vente, on envisageait les choses de cette façon-là. Demain, le produit, c'est plus forcément un produit neuf. C'est aussi un produit d'occasion. C'est peut-être un produit qui est là ou qui n'est pas là parce que peut-être que c'est un produit qui est juste dispo à la précommande ou alors c'est un produit qui est commandable tout court.
En tout cas, ça montre que l'environnemental est pris de plus en plus en compte. Nous, on avait eu Fabrice Bonifay de Bouygues Construction. Il nous disait que finalement, en environnement. Alors, il y a le bâtiment, il y a les top 3, mais la mode, il est quand même assez haut.
Exactement.
Parce que c'est quand même dans l'importation des matières premières, etc.
Oui.
Bon, là, on voit le bad buzz de l'enseigne, on va pas la citer, asiatique en France, et ils se font quand même bâcher de tous les côtés. Donc, ça montre quand même que ça évolue, il y a une perception.
Ouais.
Ça a vachement bougé les lignes là-dessus quand même, un petit peu, je trouve.
Exactement. Et je pense que de ce point de vue-là, alors pour le consommateur, les choses ont beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la seconde main, c'est vraiment rentrer dans les mœurs et ça commence de plus en plus à devenir un réflexe de consommation. Mais à la fois pour les retailers, aujourd'hui, y a une honte, entre guillemets, de cette offre seconde chance, même ceux qui du coup, l'ont réintégré dans leur magasin.
Une honte, ça reste un peu la deuxième roue du carrosse, quoi. C'est
peu
ça.
Exactement, c'est-à-dire que quand tu rentres dans des magasins, la plupart du temps, c'est positionné dans un... Exactement, tu vas rentrer sur l'offre neuve, tu vas continuer ton parcours et tu vas trouver ton offre seconde main plutôt en fin de parcours, rassemblée, parfois un peu tout venant, sur des portants où tous les produits sont mélangés. Donc, en termes de merchandising, on n'est pas au standard de la présentation d'un produit neuf.
Oui, ça reste un nice to have ou un petit plus, mais ce n'est pas encore au cœur des modèles, parce que le consommateur, comme tu dis, il veut de la nouveauté, et il veut acheter aussi encore, et voilà,
oui,
il y a ça. Hein.
Mais il y a aussi, à mon sens,
ça
vraiment
arrive,
une
cas.
Volonté des marques de présenter de façon plus valorisante et de construire un storytelling plus valorisant sur le produit neuf que sur le produit d'occasion. Et je pense que demain, le produit d'occasion réintégrera le produit neuf à des niveaux assez équivalents.
D'accord.
Donc,
intéressant ce que tu... Et question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut du local ? Est-ce que finalement, le côté environnemental, seconde main... et d'éviter tous ces imports de matières premières. Est-ce qu'aujourd'hui, si on consomme en local et du bon made in France, bon, j'aime cette expression un peu naze, parce que les consommateurs, en vrai, ils achètent ce qu'ils aiment. Hein. Donc, la nationalité, c'est bien sympathique. Mais si à un moment, j'ai le choix entre X, Y, je ne vais pas les citer, et que j'aime beaucoup l'enseigne et qu'elle est étrangère, les gens, ils y vont. Mais quel est ton point de vue là-dessus, quand même, sur le...
Je pense que les clients, malgré tout, sont de plus en plus sensibles à cette notion de localisation quand on connaît en plus toutes les polémiques qu'il y a autour de la fabrication en Chine, notamment sur le textile. Maintenant, le Made in France, aujourd'hui, c'est souvent des produits qui sont malgré tout un peu plus chers que les autres.
Oui, il y a ça aussi, ça joue ça.
Et donc, aujourd'hui...
Et puis, il y a des enseignes meilleures que d'autres. Hein. C'est comme un marché. Une maison du monde dans l'univers de l'art de la table peut être très en pointe, et puis dans la mode, bon, bah, y a peut-être des leaders à l'international et qui sont un peu plus costauds. Il y a ça aussi, hein. C'est la force des marques, hein. Ça reste ça quand même.
Ouais, c'est sûr.
T'as pas l'air totalement d'accord, non ? Vas-y.
Pour moi, le sujet aussi, c'est que souvent les entreprises qui sont en production plus locale ont des assortiments aussi plus rationalisés, qu'aujourd'hui le consommateur est assez habitué à avoir un grand choix.
Ah oui, donc, la variété, c'est super important. Voilà. L'offre, hein, et puis
aujourd'hui je pense que c'est un des freins, le prix et le manque de choix.
Ok, alors si on va sur le sujet maintenant qui est plus numérique, avenir un peu digital, innovation, qu'est-ce qui se joue finalement entre les gens qui achètent? Hier La Redoute, il nous disait, le directeur de l'expérience client, Jean-Marc Penelot, il nous disait, lui, ce qui l'intéressait, c'était beaucoup comment les clients devenaient un peu plus fidélisés, parce qu'il disait que souvent sur le web il y avait un KPI de conquête, on voulait toujours avoir des nouveaux clients, mais on s'attachait pas beaucoup finalement à la fidélisation et aux clients qui revenaient. Émilie, donc on parle de merchandising, des magasins, des points de vente. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui est clé pour faire un très bon merchandising ?
Alors, comme je disais un peu tout à l'heure, ce qui joue vraiment pour faire un très bon merchandising, c'est à la fois ce côté séduction et expérientiel, et aussi la notion de rentabilité. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, l'expérience c'est clé pour faire la différence et pour rapporter la préférence du consommateur. Donc un très bon merchandising, c'est un merchandising qui donne envie au client de venir en magasin parce qu'il sait qu'il va passer un bon moment et qu'il va être inspiré. Le merchandising, c'est pas un travail de musée. Donc, l'idée, c'est quand même de faire en sorte de transformer ce client et de lui donner envie d'acheter. Donc, le très bon merchandising, c'est celui aussi qui convertit le client.
Bien sûr. Ça paraît très limpide, ta réponse. Alors, ce qui était intéressant, c'est que toi, t'es une passionnée de créa à la base, d'identité créative et tout ça. Ça, c'est très important au départ, finalement, tout ce côté. Alors là, je reviens, nous, sur notre métier de communication. Nous, il y a toujours la charte de la marque, le brand book. On parlait de l'identité de maison du monde. Mais est-ce que finalement, ce socle de départ, il est ultra important ?
Ah, évidemment, bien sûr. Évidemment, l'expérience magasin, c'est la déclinaison de ce territoire de marque.
Global.
La déclinaison physique. Mais évidemment, il faut être sur quelque chose de très cohérent qui après se décline sur les différents médias, les différents touchpoints de façon, alors, en adaptant évidemment, aux spécificités du média, mais de façon fluide. Et il est, alors aujourd'hui, en plus, le client est hyper, enfin, il est très sensible aux réseaux sociaux, surtout sur des marques inspirationnelles. C'est un client qui va être à la fois un client web et un client magasin qui va peut-être repérer des choses sur le web et venir les acheter en magasin.
Une cohérence 360, comme
exactement.
On dit.
Exactement. Donc, en fait, si tu racontes une histoire différente sur le web que l'histoire qui va se dérouler en magasin, tu vas créer une dissonance cognitive et l'expérience, elle va se fracturer.
Intéressant, et ça fait écho au podcast de Mathieu Sacasse. Bah, tu l'as écouté d'ailleurs, le patron de Dragon Rouge, qui nous parlait du travail, justement, de plateforme de marque, et d'élaboration des chartes graphiques, des piliers de la marque. Ça, c'est un travail qui peut être très important et souvent un peu long d'ailleurs pour faire accoucher de la vraie identité d'une marque. Donc ça, c'est quand même très lié à ton métier. Je sais que tu as mentionné l'IA. Tu m'avais un peu en off, tu m'avais parlé que c'est un nouveau sujet qui était en train d'arriver. Notamment, tu peux dire quelle implication ça peut avoir sur ton métier finalement ?
Alors, chez nous, ça va avoir des implications d'un point de vue produit, donc notamment sur les créations de produits. Aujourd'hui, on sait que sur des conceptions de produits, surtout si on est sur des marques qui créent in-house la majorité de leur offre, ça c'est extrêmement chronophage, c'est très consommateur en ressources. On sait aussi qu'il y a pas mal de gâchés dans la créa et donc demain, c'est un outil aussi qui peut permettre d'être plus efficient sur la conception de produits. Ça peut être aussi un outil qui peut être évidemment après quand on redescend plus en aval hyper déterminant pour accompagner le consommateur à la fois dans de la suggestion évidemment.
Ah oui. Ça arrive déjà, je crois. Il y a déjà des magasins qui utilisent des IA sur les suggestions de produits sur des applis ou des choses comme ça.
Exactement. Et alors bon, on n'est pas vraiment dans le sujet de l'IA, mais je pense que demain, en tout cas, ça pourrait être un enjeu sur l'aspect immersif, c'est-à-dire que par exemple, là aujourd'hui, assez récemment, IKEA a lancé une pièce immersive dans un de ses points de vente. Mm-hmm. Et l'idée, c'est que le client puisse découvrir donc sur des murs blancs sur lesquels sont projetés des visuels en fait un espace, puisse se ressentir physiquement ce à quoi pourrait ressembler sa future pièce de demain.
Ah, c'est
et donc c'est hyper intéressant à la fois en termes
de la prévisualisation un peu.
Exactement. Donc, okay, c'est hyper intéressant à la fois en termes de rentabilité du point de vente et à la fois en termes d'immersivité. Donc, on coche la case séduction et la case rentabilité. Donc, et on peut imaginer que demain, ça aille encore plus loin grâce à l'IA.
Quand tu disais conception produit, c'était une implication sur le design, sur la manière de vraiment concevoir les produits.
Exactement,
quoi. L'IA va presque être un complémentaire de du design et de la création, c'est ça un peu.
Ouais, je préfère dire complémentaire en effet, mais oui.
Sur la base de, mettons, il y a eu tant d'achats de telle table, on va peut-être affiner, il y a eu tel retour. Ah ouais, c'est intéressant.
Exactement,
ça. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est en train d'arriver très fort. Donc, l'IA générative qui s'applique aussi au monde du retail. Et j'arrive dans la dernière partie du podcast, qui je pense va intéresser vraiment nos auditeurs parce qu'il est très complet sur tout ce qui est merchandising. Alors ça, c'est la question que je pose aux auditeurs. Tu as dû, comme tu as écouté les podcasts, tu dois connaître de quoi je vais parler. C'est tes goûts plus plutôt côté perso, tes goûts en matière de films, ciné, séries, BD, musique, des choses qui peuvent t'inspirer, toi, à ton niveau.
Ouais, alors moi, je m'inspire énormément de choses, en fait. Je trouve que, voilà, tu peux être nourri de tout ce qui t'entoure. Alors moi, en plus, j'ai un papa qui, s'il n'avait pas été menuisier, aurait été, je pense, savant fou.
Ah donc, oui. Ouais, carrément.
Ouais, ouais, il adore expérimenter des choses.
C'est le doc de Retour vers le futur, un peu.
C'est un peu ça, ouais. Donc, il crée son propre engrais.
Oula, ah oui.
Il a essayé un jour d'élever des escargots. Enfin, voilà, donc c'est...
Ah bah
c'est
on va voilà. le saluer, hein. Effectivement.
Donc voilà,
il t'a inspiré sur cette partie inventivité et créativité.
Exactement. Et du coup, je pense que tout est source d'inspiration. Moi, je vais beaucoup au musée.
On sent que t'es une créative.
Exactement, ouais. Et je m'inspire, voilà.
Quel musée t'as pu faire récemment qui t'a marqué ou...
Alors moi je suis basée sur Nantes, donc je veux faire un peu l'office du tourisme de Nantes.
Ah voilà, on les salue. Voilà. Hein.
Donc récemment j'ai vu une exposition sur l'océan, ouais. Voilà, qui était bien. Plutôt orientée autour de la biodiversité des océans. J'ai vu une exposition sur les bijoux de l'Inde. J'ai eu la chance en septembre d'aller en Italie, donc je me suis
génial.
Refait le musée des Offices, qui est aussi
t'as fait t'as fait lesquels? Florence, Venise, t'as fait quelle ville?
Ouais, alors j'ai
vu Rome, sans doute.
Ouais, enfin au global dans mon expérience, oui, j'ai vu toutes ces villes-là,
oui,
parce que l'Italie,
c'est sûr que c'est le pays. Moi, Florence, c'est une des villes qui m'a le plus marqué en ouais. termes de visite, de lumière, même d'ambiance.
Et Venise aussi, où Venise, la beauté ouais. est vraiment partout, même dans la plus petite des rues. Voilà,
je suis plus team Florence que Venise, mais bon, ouais. chacun ira de sa ville préférée ouais. en Italie. Bon, Rome aussi, c'est incroyable
c'est
aussi.
C'est magnifique, ouais.
Bon, bah voilà, aller en Italie, bah voilà, on a fait l'office de tourisme d'Italie. Là,
d'Italie aussi. Et puis après, voilà, en termes de livres, moi, je suis une grande fan du travail de France Deval.
D'accord. Donc, je connais pas France. Elle écrit sur quel thème?
C'est un homme.
Ou
c'est
il.
France.
France. À France, à l'Allemagne.
France, voilà.
À la German. OK.
Et donc, c'est un éthologue qui est, même plutôt primatologue, qui écrit beaucoup, en fait, sur
l'évolution.
Le monde animal plus D'accord. généralement. Et donc, notamment, il y a un livre que j'aime beaucoup qui parle de la culture animale. Et qui nous remet beaucoup en question justement.
Il y a un film qui est sorti là récemment, tu avec Romain Duris. Je l'ai pas vu. Hein, Le règne animal. Il est sur ce thème.
Je l'ai pas vu non plus.
Il paraît qu'il est pas mal, mais je l'ai pas vu. Mais oui, sur ce thème.
Je mets sur ma liste, mais.
Ok. Ah oui, du lien à la culture animale, même avec l'être humain et tout ça.
Alors c'est plus sur le fait que aujourd'hui, en tout cas, enfin, historiquement, on a tendance à considérer le règne animal comme étant un tout. Si on rentre un peu plus dans le détail, on fait des différenciations entre les espèces, mais en gros, au sein d'une espèce, on rentre pas plus dans le détail que ça. Et lui, son point, c'est surtout de mettre en valeur qu'en fait, au sein d'une espèce, il y a des cultures particulières. Donc, par exemple, il y a des façons de faire, des langages particuliers qui sont propres à certaines.
Ah ouais, donc t'es ultra curieux. Ça fait penser un peu à mes souvenirs d'histoire avec Claude Lévi-Strauss qui parlait ouais. de tout ce qui était le lien avec l'histoire des civilisations. Bon, ça sera l'objet d'un nouveau podcast.
Ouais, c'est ça. On fera
sur le thème Yves Coppens, c'est tous ces grands paléontologues. Et la toute dernière question. Et alors peut-être un film ou une série quand même qui t'a marqué, qui te.
Alors moi je suis une grande fan de The Office.
The Office.
La version US.
Ah voilà.
Voilà, okay. Donc moi j'adore la comédie et cette série, c'est vraiment celle qui m'a fait exploser de rire plus d'une fois, c'est vraiment une série.
J'adore. Oui, ça, elle revient souvent, elle est souvent ouais. dans les top cités en The Office.
Ouais.
Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à une jeune qui veut se lancer dans tes métiers du merchandising notamment.
Moi je pense que ce qu'il faut garder, en tout cas, dans sa façon de faire, dans sa culture, c'est vraiment une culture de la curiosité.
Mmh. C'est le mot qui revient tout le temps. C'est incroyable. Ouais. Hein, j'ai fait plus de 150 épisodes. C'est le mot qui revient le plus. Curiosité pour la nouvelle génération. Mais c'est, parce que ça sous-entend qu'ils le sont pas assez à cause des réseaux sociaux et de tous ces outils qui paradoxalement peuvent nous enfermer, je sais pas.
Alors je dirais pas ça,
pas tous,
parce que c'est un conseil que pour ma part j'ai aussi
appliqué. Tu t'appliques.
Je m'applique, mais il y a parfois aussi certaines situations où j'ai trouvé difficile de continuer à avoir cette approche un peu candide et de remise aux questions. Alors notamment sur mon métier, où quand tu travailles pour une marque, tu as tendance à assimiler son ADN, à te mettre dans une forme de moule et finalement peut-être à te mettre sur des rails et adopter des pratiques un peu routinières.
Qui s'applique à tout le monde d'ailleurs en vrai. Ouais. Quand on est très pris par son activité,
exactement.
Il manque le petit pas de côté, le recul qu'on peut avoir souvent, comme tu disais, au musée, on a une journée, on peut aller prendre du temps pour
exactement.
Soi. C'est souvent là que vient l'inspiration pour les créatifs. Hein.
Tout à fait. Et effectivement, c'est cette notion de conserver des moments d'acculturation, de pas de côté. Évidemment, bencher, c'est indispensable, faire du benchmark. Regarder ce qui se fait à la concurrence. Mais vraiment faire cet effort de prendre du recul sur ses pratiques.
Ou du temps pour soi, tout simplement. Comme tu dis,
ouais,
tu as fait le musée d'océan et de prendre ce temps parce que c'est un plaisir d'aller voir telle expo sur l'océan. C'est vrai que c'est du temps que, comme tout va très vite, malheureusement, c'est du temps que les gens peuvent prendre un peu moins, malheureusement.
Oui, mais c'est là où, pour le coup, pour moi, la culture est partout. Et
c'est vrai.
C'est pas nécessairement que dans les musées, c'est pas que des films, des séries, c'est vraiment partout en fait. C'est une culture d'ouverture d'esprit.
Je peux que être d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est un message d'ouverture très intéressant. Eh ben, Émilie, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.